Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Aujourd'hui, on va aborder la notion d'équilibre dans l'Ayurveda, qui est une notion très très importante, qui est une notion de base, on peut dire ça comme ça. Alors, dans un premier temps, je vais peut-être reprendre les bases quand même de l'Ayurveda pour ceux qui n'auront pas écouté, reprendre quelques éléments. Donc, Ayurveda, si on prend l'étymologie, Ayur, c'est la vie, c'est la longévité. Veda, ce sont les textes sacrés, ce sont les connaissances. Donc, l'Ayurveda, c'est un ensemble de connaissances sur la vie et sur la longévité. Comment vivre longtemps en bonne santé. Avec l'Ayurveda, beaucoup de bon sens et justement avec cette notion d'équilibre. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'Ayurveda, ça touche à beaucoup de choses. C'est une science holistique qui touche à la fois à la médecine. En Inde, c'est reconnu comme une médecine de l'Inde, à côté de la médecine allopathique, la médecine anglaise. C'est aussi des notions sur la nutrition, sur le style de vie. L'Ayurveda touche beaucoup de points, le yoga fait partie de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, ce qu'on peut voir, c'est une science, un art qui est très flexible, qui est très adaptable et qui s'adapte d'abord à chaque personne. Chaque personne est unique dans l'Ayurveda. La personne qui a par exemple un rhume, on ne va pas du tout donner la même chose pour deux personnes qui ont a priori les mêmes symptômes. Donc l'Ayurveda s'adapte très bien à chaque personne. L'Ayurveda aussi peut voyager. L'Ayurveda peut s'adapter à d'autres cultures que la culture indienne. Donc on peut dire que l'Ayurveda est très flexible. Après, il y a une autre notion qui est importante dans l'Ayurveda, un autre élément essentiel, c'est qu'on dit il y a à la fois un côté scientifique dans l'Ayurveda, avec des recherches, avec une évolution, mais on dit aussi que l'Ayurveda vient des dieux, et notamment du dieu Brahma. Brahma, qui est le dieu de la création. Vous savez qu'en Inde, il y a trois dieux très importants qui sont Brahma, Vishnu, Shiva. Vishnu qui maintient et Shiva qui détruit. Et donc on dit que l'Ayurveda vient de Brahma, le Brahma qui est le créateur, qui est aussi qui peut être associé aussi à l'évolution. Ce qu'on va voir après comme dosha, c'est-à-dire kapha. Donc on dit que l'Ayurveda vient de Brahma, on dit que l'Ayurveda est venu parce que le temps de vie était limité, et donc on est allé voir les sages, les chercheurs, les rishis de l'Inde, qui se sont mis en méditation et qui ont reçu les connaissances de l'Ayurveda par les dieux, et justement par le dieu Brahma. Alors ce qui est important aussi dans l'Ayurveda, c'est qu'il y a... Bien sûr, ça a été une connaissance qui s'est faite de maître à disciple. Et il reste des médecins qui sont reconnus en Inde et qui viennent de maître à disciple, qui ont un savoir de maître à disciple. Il y a aussi les médecins ayurvédiques qui viennent de l'université. Donc on a les deux branches dans l'Ayurveda et un bon médecin ayurvédique. C'est un médecin qui fait une bonne médecine préventive et qui, à la limite, n'a pas de malade. Donc pour revenir donc je vous disais que l'Ayurveda était passé de maître à disciple, c'est des connaissances qui viennent de Dieu au départ, et après les sages de l'Inde l'ont transmis cette science sacrée, hein, et quelquefois il y a des secrets en Ayurveda. J'ai vécu 5 ans avec un swami, et il y avait des choses, il y avait des recettes, il y avait qu'il ne me transmettait pas. Bon, voilà, il y avait des choses qu'il me transmettait, d'autres choses qu'il ne me transmettait pas, parce qu'il y a un côté aussi sacré, secret, hein, dans la Ayurveda. Mais il y a quand même beaucoup de connaissances qui sont transmises, déjà par 3 livres majeurs, qui remontent au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, le premier livre, c'est Charaka-Samhita. Charaka, donc c'est l'auteur, et Samhita, ça signifie ensemble de connaissances. Donc à chaque fois, vous allez avoir plusieurs livres où ça va être toujours le nom de l'auteur et après Samhita, 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 qui veut dire ensemble de connaissances, collection de connaissances. Donc un des livres majeurs de l'Ayurveda, c'est Charaka-Samhita, où il y a c'est le livre de référence. Je vous le conseille pas parce qu'il est un peu imbuvable, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de précisions, c'est sur la médecine en général. Puis après, vous avez un autre livre qui s'appelle Shushruta Samhita. Et là, Shushruta Samhita, donc toujours l'auteur Shushruta, qui est le maître de la chirurgie. Et Samhita, qui est l'ensemble, hein, la collection des connaissances sur la chirurgie. Donc, c'est encore un livre de référence. Donc, qui date aussi, alors les dates ne sont pas exactes, mais on va dire 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on voit des références très anciennes et très précises en Ayurveda. Alors il y avait quelqu'un qui est venu à mon stage dernièrement et qui était dans la médecine allopathique et qui a demandé comme question, mais est-ce qu'il y a des recherches en Ayurveda? Bien sûr il y a des recherches, il y a une évolution dans l'Ayurveda, mais ça n'empêche qu'il y a des ouvrages de référence. Et puis il y en a un troisième qui s'appelle Ashtanga Hridaya. Qui reprend un peu l'ensemble et qui vulgarise encore l'Ayurveda et qui montre les différentes branches de l'Ayurveda. Donc ça c'est vraiment essentiel, hein, de savoir qu'il y a 3 livres de base, de savoir que l'Ayurveda date de très très longtemps, que l'Ayurveda est née en Inde. Après, il y a eu des conflits entre les bouddhistes, les hindouistes, et l'Ayurveda a pu aller dans d'autres pays, et l'Ayurveda est reconnu dans beaucoup de pays. L'Ayurveda n'est pas reconnue comme médecine en France, même si elle est reconnue par l'OMS. Donc, en France, on fait plutôt du bien-être, hein, plutôt que la médecine ayurvédique. Il doit y avoir 3 ou 4 vaidyas, c'est-à-dire médecins ayurvédiques en France, qui ont fait vraiment l'université de l'Inde. Moi, je suis thérapeute ayurvédique, hein, j'ai suivi pendant 5 ans un vaidya, c'est-à-dire un médecin en Inde, au quotidien. Puis, je me suis formée aussi dans des cliniques ayurvédiques, et je continue à me former dans des cliniques ayurvédiques en Inde, où je vais régulièrement. Alors, autrement, il y a 8 branches dans l'Ayurveda, et c'est vraiment très large. Donc, il y a la médecine générale, il y a la pédiatrie, il y a la psychiatrie. Il y a les ORL, tout ce qui concerne l'ORL. Il y a la chirurgie, hein, avec tous les points, les points vitaux qu'on appelle marma. Il y a la chirurgie aussi avec. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, qui viennent de la chirurgie de l'Ayurveda. Il y a après tout ce qui concerne les intoxications et toutes les addictions. Donc on soigne aussi les addictions en Ayurveda, toute la toxicologie, tout ce qui concerne les poisons aussi. Et puis enfin, il y a la science de la réjuvénation, hein, les sciences pour aller un peu contre les effets de l'âge, avec les médecines de purification, et en fait, et enfin les aphrodisiaques, pas seulement les aphrodisiaques, mais aussi tout ce qui concerne la reproduction, hein, la santé liée à la reproduction. Voilà. Donc il y a 8 grandes branches de l'Ayurveda. Donc ça c'est quand même assez essentiel, c'est important de le savoir. Et maintenant nous allons arriver donc à notre sujet de l'équilibre et voir déjà ce qui est important dans l'Ayurveda, c'est les 2 aspects de l'Ayurveda qui sont à la fois la prévention et le côté curatif. Donc comme je vous l'ai déjà dit auparavant, la prévention est vraiment essentielle dans l'Ayurveda. Avant de soigner, une personne qui va faire attention à son alimentation, qui va faire attention à son mode de vie, qui va connaître aussi ses doshas, c'est-à-dire sa constitution première, qui va aller dans le sens de sa constitution, qui va savoir ce qu'il faut faire, pas faire, eh bien, va prévenir les maladies. Donc, la prévention en Ayurveda est essentielle. Puis après, il y a toute la partie curative. Hein, quand la maladie est là, comment soigner? Alors, il y a beaucoup de moyens. Ça peut être par les plantes. Ça peut être aussi par des soins comme le massage. Ça peut être par un autre mode de vie. Ça peut être par la nourriture. Et la nourriture est un des premiers médicaments en Ayurveda. Donc, les 2 pôles de l'Ayurveda, à la fois la prévention et le côté curatif. Et le Panchakarma, hein, qu'on avait vu la dernière fois, c'est les 5 actions que l'on fait une fois l'an, régulièrement, pour éviter justement la maladie, pour purifier le corps, pour redonner de l'énergie à l'esprit, au corps. Alors maintenant, on va aborder notre sujet qui est l'équilibre. Et pour cela, je vais poser une question. Qu'est-ce que la santé pour vous? Quand est-ce que vous pensez que vous êtes en bonne santé? Quand est-ce que vous pensez que vous avez la santé? Donc, essayez de réfléchir pour vous, qu'est-ce que c'est que la santé? Voilà, je vous laisse une minute. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous répondriez si je vous demandais est-ce que vous êtes en bonne santé et c'est quoi la santé pour vous? Et l'Ayurveda, donc, a une définition de la santé. Pour l'Ayurveda, c'est justement l'équilibre. Alors, l'équilibre de 5 points. L'équilibre, et je vais détailler chaque point les uns après les autres et expliquer. Donc, premier point, l'équilibre de ce qu'on appelle les doshas. Hein, ce qu'on va voir, qu'est-ce que les doshas? J'ai déjà expliqué, mais on peut expliquer. David Frollet disait qu'il fallait au moins 3 à 5 ans pour bien comprendre la science des doshas. Après, Samadosha, donc ça c'est le premier, pour la santé. Hein. Qu'est-ce que c'est que la santé? C'est d'abord l'équilibre des doshas. Les doshas, on va voir ce que c'est. Après, Samadhatu, donc on va voir ce que c'est que les dhatus. Après, Samagni, on va voir ce que c'est Agni. Après, Malakriya, et une dernière phrase en sanskrit qui est essentielle, Prachana, Atma, Ijaya, Mana. Donc ces 5 points-là permettent de dire que l'on est en bonne santé. Alors, revenons sur le premier point. Le premier point, c'est Sama Dosha. Alors, les doshas, vous avez sans doute entendu parler des doshas en Ayurveda. C'est très important, c'est essentiel. Les doshas, en fait, on peut traduire dosha par énergie. Hein? Les doshas ou encore humeur ou encore force vitale. Et les doshas sont au nombre de 3 et forment donc la théorie du tridosha. Ces 3 doshas constituent la nature chimique de chaque organisme vivant. Alors, ces doshas. Ces doshas sont les éléments qui maintiennent tous les organes, sont les éléments de votre corps. Alors, ces doshas sont Vata, Pitta, Kapha. Vata, Pitta, Kapha. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, ils sont constitués des 5 éléments propres à toute nature. Donc, les 5 éléments qui sont éther. Éther, c'est l'espace, E-T-H-E-R. Puis après, l'air. Donc, c'est l'espace qui est en mouvement, qui donne l'air. Après, vous avez le feu, vous avez l'eau et vous avez la terre. Donc, ces éléments gouvernent tous les principes de croissance, mais aussi de destruction. Et vous allez voir que chaque dosha a des qualités quelquefois opposées. Et chaque dosha partage une qualité avec un autre dosha. Hein, tandis que le troisième peut avoir une qualité opposée. Alors, donc je vous ai dit Vata, Pitta et Kapha. Donc on va voir que Vata, qui est air et terre, partage avec Kapha, qui est eau et terre, vont partager la fraîcheur, le froid. Pitta, lui, il est chaud parce qu'il est feu et eau, mais feu en premier. Chaque dosha, chaque énergie, a toujours un élément en premier. Donc je répète, vous avez Vata, air et terre, avec l'air en premier, l'air le mouvement. Vous avez Pitta, feu et eau, avec le feu en premier. Et vous avez Kapha, avec eau et terre, et l'eau en premier. Donc les doshas ont pour rôle de réguler les petits changements de la vie quotidienne sans troubler le fonctionnement du corps. Donc, tout excès est contenu dans le siège du dit dosha. Mais si les excès de dosha s'accumulent, c'est le début de la maladie. Et on va voir que l'esprit est en relation avec le corps. En Ayurveda, comme je vous dis, chaque personne est unique. Et quand on a un problème, eh bien, on va regarder... qu'est-ce qui se passe chez la personne, hein? Tant au niveau des émotions, au niveau du spirituel, au niveau du mental. Et donc ces 3 doshas, ces 3 énergies, hein, qui vont être... Alors il existe 7 constitutions, hein? On peut être par exemple que Vata, c'est-à-dire qu'on a plus de Vata. On peut être Pitta, plus de feu. On peut être Kapha, plus d'eau. Ou on peut avoir 2 doshas ou énergies c'est une question de proportion, donc plus forte. Vous pouvez avoir Vata Pitta, Vata Kapha, Pitta Kapha, ou encore tous les 3 doshas à peu près aussi importants les uns que les autres, c'est Vata Pitta Kapha. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est l'équilibre des doshas en fonction de sa constitution d'origine. On a une constitution à la naissance. Et si, alors, par exemple, si on prend Vata. Vata, on a dit, c'est air et terre, et c'est le mouvement. Hein? Le corps bouge grâce à Vata. Hein? Donc, tout ce qui est dans le corps mouvement, comme la respiration, comme le battement du cœur, battement des cils, ça va être Vata. Et si Vata est en excès, c'est-à-dire que si Vata est déséquilibré, il va y avoir trop de mouvements dans le corps. Si Vata est en déséquilibre, il n'est pas assez important, eh bien, il va y avoir pas assez de mouvements. Et donc, les traitements en Ayurveda vont essayer d'augmenter ou de réduire le dosha qui pose problème. Maintenant, on a vu Vata, qui était le mouvement. Hein, le premier, la première énergie qui erre et éthère, E-T-H-E-R. Hein. Donc, air éthère, vous pouvez imaginer, c'est froid aussi. Hein, l'air, hein, ça assèche. En général, c'est des gens assez secs, les Vata. C'est le grand sensible, Vata. Hein. Et Vata, donc on peut retrouver les Vata. Souvent, le Vata augmente quand c'est la dernière partie de la vie. Hein. À partir de 50 ans, on peut voir qu'il y a plus de problèmes de sommeil, que la peau est plus sèche, il y a moins d'énergie quelquefois, il y a plus de sensibilité encore. Donc voilà pour Vata. On pourrait en parler hein, longtemps de Vata. Après, Pitta. Donc on a vu que un des éléments importants de la santé, c'est l'équilibre des toshas. Donc équilibre de Vata, équilibre de Pitta. Pitta, c'est le feu. Feu et eau. Et Pitta, c'est la transformation. Hein? Tout ce qui est transformation. Dès qu'il y a une transformation, il y a du Pitta. Par exemple, dans la digestion, il va y avoir du Pitta. Système hormonal, Pitta. Système endocrinien, Pitta. Et Pitta, en général, c'est ce qui est au milieu. Hein, au milieu du corps. Vata, c'est le bas du corps. Pitta, c'est le milieu du corps. Et Pitta, c'est le milieu, par exemple, on va dire que les premiers âges de la vie, c'est plus Kapha, parce qu'on grossit, on grandit. Après, deuxième âge, ça va être Pitta. L'adolescence, on est tout feu, on se transforme. Donc, Pitta, transformation. Et bien sûr, si on a trop de Pitta, trop de feu, donc il y aura de l'acidité, il y aura de la colère, on a toujours faim, on a toujours chaud. Le système hormonal aussi est déréglé. Donc, Pitta en excès amène des troubles. Aussi, on peut voir, il peut y avoir toujours des inflammations. Quand il y a trop de Pitta, facilement il y a des inflammations. Si on n'a pas assez de Pitta, on ne va pas avoir assez de feu, donc pas assez d'énergie. Hein. Et Pitta, manque de Pitta, ça manque d'énergie, ça manque aussi pas difficulté de digestion, difficulté pour toutes les transformations. Puis après, on va passer à Kapha. Donc Kapha, c'est eau et terre. Eau, ça va être un élément qui s'adapte facilement. Eau, c'est aussi ce qui va apporter de la nourriture. Donc, Kapha, c'est celui qui va amener les bons éléments au corps. Hein, les bons éléments au corps qui va le nourrir. Alors, un excès de Kapha, il va y avoir trop de nourriture. Donc, il va y avoir des excroissances. Il va y avoir un trop de Kapha va donner quelquefois des gens qui sont un peu en excès de poids. Hein. Un excès de Kapha va donner aussi des gens assez lents. Hein. Voilà. Donc, voilà pour Kapha. Mais bien sûr, c'est vraiment résumé voilà. Kapha en excès aussi va avoir un feu digestif affaibli. Hein. Il va souffrir de la lourdeur, de la toux, des frissons. Pas oublier que Kapha, c'est un dosha qui est froid. Respiration difficile, augmentation de poids, une accumulation de tissus, de l'obésité, du mucus et de l'eau en excès hein, pour Kapha. Des nausées, des vomissements, digestion très longue, des articulations molles, du diabète, des gonflements, rétention d'eau, problèmes respiratoires, toux, asthme, sinusite, bronchite, des œdèmes. des crampes, des maux de tête, voilà. Alors, maintenant, alors, ça c'est pour Kapha, pas assez de Kapha, trop faible aussi. Hein, ça va être quelqu'un qui manque de nourriture. Donc, ça va être important que chaque dosha soit équilibré, mais aussi qu'ils soient équilibrés ensemble, qu'il y ait une harmonie entre les droits en fonction de la constitution de base. Si par exemple vous êtes essentiellement Vata, donc vous aurez toujours un peu plus de Vata. Mais il ne faut pas que votre Vata il augmente. Vous aurez toujours, en fait, comme vous êtes Vata, vous allez avoir plus facilement les problèmes de Vata. Donc les problèmes de Vata, c'est les problèmes par exemple de déséquilibre. Les problèmes, voilà, il a du mal quelquefois à se stabiliser, à s'ancrer. Hein. Quelquefois, il va être aussi, il va y avoir, s'il y a beaucoup de kapha, il va y avoir de la raideur, il va y avoir une peau sèche, il va y avoir des gaz, une mauvaise haleine, des douleurs abdominales, des crampes, du stress. Le vata en excès, c'est le grand stressé, des rhumatismes, des vertiges, des tremblements. Hein, on sait que c'est le mouvement vata, des rites très vite. Problème d'yeux aussi, problème de vision. Il peut y avoir de la confusion, hein, de l'impuissance, voilà. Toute douleur indique un problème vata. Hein. Voilà. Beaucoup de chagrin s'il y a trop de vata, d'anxiété, de tristesse. Si vata est en insuffisance, donc la personne va manquer d'enthousiasme. Il est maigre, il est asséché. Il souffre de confusion. Donc voilà. Et puis après, maintenant, s'il y a kapha maintenant. Alors, si on voit un kapha, comme je vous ai dit, s'il y a trop de kapha, il va y avoir un excès de poids, des œdèmes, il va y avoir, ça je vous l'ai dit un petit peu, hein, feu digestif affaibli. Donc voilà, ce qui est important, c'est que chaque dosha soit équilibré et que l'ensemble soit équilibré. Donc ça, c'était l'équilibre des doshas, l'équilibre des énergies au niveau fonctionnel. Maintenant, on va voir le Sama Dhatu. Alors, Sama Dhatu, ça c'est hyper important. Dhatu, c'est ce qui consiste, c'est les structures, consiste dans les structures, toutes les structures du corps. Donc, dans les structures, il y a sept, alors, selon la classification de l'Ayurveda, il y a sept grandes structures. La première structure, c'est ce qui concerne le plasma, rasa. Hein. Son siège, c'est la peau, sa fonction, la nutrition. Rasa, c'est le plasma, mais c'est aussi la lymphe, le cytoplasme, la muqueuse. Donc, si Rasa est perturbé, donc par exemple pour Vata, on va avoir des mains et pieds froids, de l'anxiété. Pour Pitta, la fièvre, l'acné. Pour Kapha, la rétention d'eau. Donc, c'est important que le plasma, donc tout ce qui concerne le siège chez la peau, il est conseillé de boire des boissons chaudes pour Vata, de manger du liquide pour Pitta, de boire des boissons chaudes pour Kapha. Donc ça c'est le plasma, la première structure qui doit être équilibrée. Après vous avez le sang, tout ce qui concerne la circulation sanguine, c'est Rakta. Donc quand Rakta est en bon état, le teint est sain, rose. Donc sa fonction, c'est l'oxygénation. L'oxygénation de tous les tissus et organes vitaux. Il donne la vie. Il se trouve dans les vaisseaux sanguins. Donc, si Rakta est perturbé, vous pouvez avoir de l'anémie, vous pouvez avoir de l'eczéma. Donc, tout ce qui concerne Rakta, le sang. Et bien sûr, en fonction des doshas, bon, par exemple, si vous avez des problèmes, si Rakta n'est pas équilibré, si vous avez Rakta n'est pas équilibré et vous avez un excès de Pitta, Donc, vous allez avoir des éruptions cutanées, furons, fièvre, inflammation. Puis, après, donc vous avez, on a parlé du plasma, du sang, et après, vous avez Mamsa, qui est les muscles. Sa fonction est le mouvement, il donne la force. Il se trouve dans les muscles, les organes internes. Il couvre les organes vitaux. Il permet le mouvement des articulations. Il maintient la force physique. Donc, Mamsa, les muscles perturbés. Vous pouvez avoir une perte de mouvement, une atrophie musculaire. Vous pouvez avoir des muscles flasques, des kystes. Donc, il est conseillé d'avoir une activité physique pour avoir de bons muscles. Hein? Et puis aussi, de prendre des protéines, des légumineuses. Après, Mamsa, les muscles, vous avez la graisse. Hein? Sa fonction est la lubrification. Il donne la beauté. Il se trouve dans les formations adipeuses. Les tissus sont lubrifiés, donc... La graisse est importante, hein. Quelquefois on va absolument être mince, mais c'est important d'avoir un tissu cellulaire qui protège des chocs, des blessures, un tissu graisseux qui régularise la température de la peau par la sueur. Si la graisse est perturbée, vous avez une peau sèche, douleur du bas du dos, des articulations craquantes, de la cellulite, de l'obésité. Voilà, tout ça, c'est MEDA, la graisse perturbée. Pas en équilibre. Importance de l'équilibre dans les constitutions. Alors, pour contrôler MEDA, c'est important de prendre du ghee, d'utiliser des huiles végétales biologiques, de faire des massages relaxants aux huiles végétales, en fonction de sa constitution. Et en cas de surpoids, de faire des massages se font à sec, sans huile. Il est également bon de faire de la marche à pied, du yoga, un sport adapté à son dosha prédominant, permettant donc l'équilibre, hein, le métabolisme des graisses dans le corps. Donc plasma, sang, graisse, et après on va voir la structure osseuse, hein, la structure de base du corps. Sa fonction est très importante, c'est le soutien, c'est la protection. Il donne la solidité. Il se trouve dans les os, dans le squelette. Donc si un asti est perturbé, la structure osseuse est perturbée, on peut avoir des ongles fragiles, on peut avoir des rides, des raideurs, des rhumatismes, des articulations craquantes, des douleurs aux os, des pertes osseuses, des problèmes dentaires, de l'arthrite, des tumeurs dans les os. Donc il est conseillé d'avoir des aliments riches en calcium, des produits laitiers, des figues, des légumineuses, des produits riches en vitamine D, comme des produits laitiers, huile de foie de morue, des jaunes d'œufs, et d'aller au soleil, de se promener. Alors attention pour les produits laitiers. L'Ayurveda n'est pas contre les produits laitiers, mais il faut voir aussi qu'en Inde, quelquefois les produits laitiers, ils sont plus sains que les produits laitiers qu'on peut avoir en France. Et le lait en excès est toujours mauvais. C'est toujours dans l'équilibre. On est dans l'équilibre. En fait, dans l'Ayurveda, on va dire qu'il faut manger un peu de tout. En équilibre. Hein? Avoir toutes les saveurs à chaque repas. Alors, on revient à notre structure. Et maintenant, après avoir les os, on va voir les nerfs, matja, la moelle épinière, le cerveau. Hein, et sa fonction est la transmission de l'influx nerveux, la communication, donne les informations. Donc si Majja, les nerfs, la moelle épinière est perturbée, il va y avoir des étourdissements, de la confusion, des fausses, des tumeurs. Donc pour fortifier Majja, ce qui est important, c'est de méditer, chanter des mantras, d'apaiser le mental. D'éviter les films d'horreur, d'éviter d'aller trop sur les médias, de dormir suffisamment, de faire des promenades à la campagne, de diffuser des huiles essentielles apaisantes. Tout ça, c'est du bon sens, tout ça, vous le savez. Hein? Et c'est ce qui amène la santé, L'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Donc là, on a vu l'équilibre dans le matcha, dans les nerfs, dans la moelle épinière, le cerveau. Après, équilibre dans le chakra, les systèmes reproducteurs masculins et féminins. Donc, ils se trouvent dans les testicules, dans l'utérus. Chakra est le système reproducteur masculin, tandis que Kartava correspond au système reproducteur féminin. Donc, sa fonction est la reproduction, la procréation. Donc, c'est également la source d'ojas, l'immunité. Donc, il y a l'amour, la production d'hormones, il régule la production d'œstrogènes, les fonctions glandulaires, la production de sébum, les sécrétions odorantes sexuelles. Donc, chakra, ce qui est important, il faut qu'il soit équilibré pour avoir une bonne sexualité, une bonne éjaculation, une fertilité, une bonne fertilité. Autrement, il y a tous les problèmes d'impuissance, de frigidité, de stérilité, troubles de la prostate, des tumeurs, etc. Donc, pour fortifier chakra ou artava, il est conseillé de s'émerveiller de la beauté de la nature, de pratiquer un art, de privilégier des relations humaines saines, en accord avec soi, d'activer ojas, l'immunité. Ojas est source de bonheur, de santé. Voilà, afin de fortifier ojas, il est conseillé de méditer. Hein, ojas, l'immunité. Les techniques de respiration, de s'entourer de belles choses, de consommer des régénérants, de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer, de faire panchakarma une fois par mois, par an. Panchakarma, je vous en ai parlé. La dernière fois, c'est les 5 actions pour nettoyer et le corps, préparer le corps, nettoyer le corps et après redonner l'énergie au corps. Donc, on a vu les datus, les structures dans le corps, plasma, sang, muscles, graisse, os, moelle épinière, tissu reproducteur, donc l'équilibre, hein, sama datu. Équilibre de cette structure. Si la structure est trop haute, maladie. Si la structure est trop basse, maladie. Toutes ces structures doivent être en équilibre et à ce moment-là, nous sommes en bonne santé. Alors maintenant, on va passer à autre chose, c'est sama agni. Sama agni, sama, c'est l'équilibre, hein, sama à chaque fois, et agni, c'est le feu, agni, mais c'est le feu digestif. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un bon équilibre du feu digestif. Et ça, c'est essentiel en Ayurveda. Et souvent, l'Ayurveda va soigner votre feu digestif. Parce que si vous avez trop de feu, eh bien, ça va brûler le corps. Mais si vous n'êtes pas assez de feu, vous n'allez pas assimiler. Donc, vous allez être lourd, vous allez être gros, vous allez avoir des problèmes de digestion. Vous allez être mal. Donc, c'est pour ça que l'Ayurveda apporte une attention très particulière à Agni, à l'équilibre, à Sama Agni, l'équilibre du feu digestif. Quelqu'un qui va avoir un faible feu digestif, et souvent les gens qui sont kappa, qui ont la structure kappa ou un faible feu digestif, et c'est pour ça qu'ils deviennent très gros. Ils ne mangent pas plus que les autres, mais ils n'assimilent pas. Donc tout se transforme en eau ou en graisse. Donc c'est important. Et puis, si vous n'avez pas de feu digestif, c'est là où vous allez avoir la maladie. Vous allez avoir des déchets, et vous n'allez pas arriver à éliminer, à intégrer la nourriture, et vous allez avoir des déchets qui vont s'accumuler, qu'on va appeler après ama. Alors, donc on a vu les trois équilibres très importants, sama dosha, sama datu et sama agni. Maintenant, on va passer à quelque chose de très 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 important qui est mala kriya. Alors, mala kriya, Les malas, ce sont les éliminations. Sont malas ou éliminations sont des substances ou toxines qui sont en partie utilisées par le corps, en partie rejetées sous forme modifiée, après avoir fait leur travail physiologique. Donc les malas sont en tout au nombre de 13. Ça peut être les selles, l'urine, la sueur, les gaz, les larmes, les rots, les ballonnements, les éternuements, les vomissements, la faim, la soif, le sommeil, l'éjaculation. Donc, si on garde les malas dans le corps, les symptômes de la maladie peuvent apparaître. Il faut aussi noter qu'une pensée négative est aussi un mala à retirer. Hein? Un mala sont les éliminations, hein, les toxines dans le corps. Alors, il y a trois malas qui sont considérés comme les plus importants, qui sont la sueur, Prachveda, les urines, Moutra et les selles Pulsha. Donc ces trois malas sont en équilibre dynamique les uns avec les autres pour maintenir la santé. Un déséquilibre dans le corps de ces trois éléments provoque une maladie ou une carence. Leur élimination est essentielle pour garder la santé. Ils proviennent des déchets produits par le métabolisme. Une fois la nourriture digérée, ce qui est nécessaire au corps est absorbé. Le reste est éliminé, en grande partie par les selles. Les selles aident le corps à maintenir sa structure. L'excès d'eau à l'intérieur du corps est éliminé par l'urine et la sueur. Donc, très important, ces trois malas, qui sont les selles, l'urine et la sueur. Donc, importance d'une bonne élimination, kriya, hein, des malas, des toxines, par les trois, en fait, les trois éliminations. Hein, les malas, c'est l'élimination des toxines. Donc, par les selles, l'urine. Donc, c'est les selles, en fait, quand vous allez en Inde, quand vous faites un bilan ayurvédique, on vous demande, voilà, l'état de vos selles. Et combien de fois, c'est très, très... très précis quoi. L'urine pareil, voilà. Même on va voir la couleur de votre urine, hein. Et quelquefois on vous demande même d'utiliser l'urine quand vous avez pour la mettre sur le corps ou même de boire l'urine, hein. Quelquefois ça arrive et voilà, bon, les gens sont plus ou moins prêts. Et c'est vrai, quand on est végétarien c'est beaucoup plus facile, hein. Voilà. Donc voilà pour les trois malas. Et maintenant, on va passer à la phrase qui est très très importante. Prashna, Prashana, Atma, Idraya, Mana. À Prashana, P-R-A-S-A-2-N-A, Prashana en sanskrit, ça veut dire happy, ça veut dire le bonheur, ça veut dire être heureux. Atma, c'est l'âme. Indriya, c'est les organes des sens. Et mana, c'est l'esprit. Donc, pour avoir la santé, hein, on est toujours avec la santé. On a vu qu'il fallait avoir une bonne élimination, hein, des malas, des trois malas, et, ou de tous les déchets, d'avoir un bon feu digestif, d'avoir l'équilibre dans les structures, l'équilibre dans les doshas. Hein, les énergies du corps. Et maintenant, le dernier point, c'est le bonheur. Et ça fait partie de la santé. Le bonheur, et on commence tout de suite par l'âme. Hein, le bonheur de l'âme. Et ça, c'est la santé. Le bonheur aussi des organes des sens. Dans l'Ayurveda, on va dire que tout est nourriture. Pas seulement la nourriture que vous prenez deux fois par jour, une fois par jour. Tout est nourriture, ce que vous voyez est nourriture, ce que vous entendez est nourriture, ce qui vous touche est nourriture, hein, tout ce qui vient des organes des sens est nourriture. Donc la vue est nourriture, donc c'est très important ce que vous dites, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce qui vous touche, ce que vous touchez, tout est nourriture. Les goûts, hein, ce que vous mangez, tout est nourriture. Et donc, il faut que, il faut, j'aime pas le terme, mais ce qui est important, c'est que cette nourriture, ces nourritures, eh bien, vous ravissent l'âme. Ces nourritures vous apportent le bonheur. Ces nourritures vous comblent. Donc, dans l'Ayurveda, eh bien, il y a l'âme, la nourriture de l'âme, et que l'âme soit heureuse. Comment ? Par la méditation, par le yoga, par la nature, par ce que vous aimez aussi. Ça peut être un art. Par exemple, je ne sais pas, vous aimez faire de la peinture, vous aimez écrire, vous aimez raconter des histoires, vous aimez faire de la couture, vous aimez... Ça, c'est un... quelquefois, il y a des gens qui viennent et puis je vois très vite qu'ils sont vata, puis je leur dis, vous avez un côté artiste. Alors, pour le côté sensible, ça, ils me disent oui. Mais quand je leur dis, vous avez un côté artiste, ils me disent, ah, non, je suis pas artiste. Ça veut dire qu'ils ne savent pas jouer de guitare ou qu'ils savent... Non, mais être artiste, c'est autre chose. C'est avoir cette sensibilité à chaque instant, c'est avoir une créativité à chaque instant. Aussi, une créativité à sa vie, quoi, en fait, hein. Donc, l'important, pratsana, atma, idraya, ça veut dire être heureux dans l'âme, être heureux par toutes les nourritures des organes d'essence, et puis être heureux aussi, atma, mana, par l'esprit. Être heureux dans notre esprit, c'est-à-dire que ce soit intellectuellement, mais aussi les pensées qu'on peut en voir. Donc, si vous avez des pensées négatives, si vous ruminez sans cesse, eh bien, vous n'êtes pas en santé, d'après l'Ayurveda. Hein? La santé, dans l'Ayurveda, ce n'est pas, quand, c'est pas l'absence de symptômes. La santé, c'est beaucoup plus que ça. La santé, c'est le bonheur du corps, la bonheur de l'âme, le bonheur de l'esprit. Donc, ça veut dire que la santé, c'est tant au niveau physique qu'au niveau mental, qu'au niveau social et spirituel. Alors, je me souviens, on avait eu ce cours quand j'étais dans une clinique ayurvédique, on avait abordé ce sujet. Et puis, il y avait quelqu'un qui dit, mais oui, mais c'est impossible d'être en santé dans une société. Voilà. Bon, déjà, c'est une idée négative. Alors le médecin avait dit, mais oui, mais c'est à vous de montrer l'exemple. Et c'est vrai que on peut déjà, par soi-même, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on voit, à ce qu'on dit, à ce qu'on entend, à avoir cette éthique, à ce qu'on dit aussi. Moi, je vois des gens qui sont, quelquefois, ils se disent dans l'Ayurveda, ils critiquent, ils ont des paroles sans conscience, ils ne mettent pas de conscience dans ce qu'ils disent. Quand ils disent quelque chose, alors bien sûr, on peut avoir un peu d'humour, mais l'humour n'empêche pas d'avoir aussi un peu de conscience dans ce qu'on dit, et puis de sensibilité, de voir comment l'autre va recevoir la parole. La parole est sacrée, hein, et ça fait partie de l'équilibre de l'Ayurveda. Hein, dire des paroles négatives à quelqu'un, eh bien, c'est pas l'Ayurveda. Hein, c'est pas l'Ayurveda du tout. Être dans ses pensées, ruminer, c'est pas l'Ayurveda. Être toujours dans la négativité, c'est pas l'Ayurveda, ou c'est pas la santé. C'est surtout pas la santé. Et l'Ayurveda essaye d'amener, c'est un art de vivre, c'est une philosophie pour avoir la santé. Donc n'oubliez pas, c'est d'abord la joie, hein, prachana, la joie. Et c'est vrai que souvent, j'aime bien dire, un des critères que quelqu'un est bien dans le yoga, c'est qu'il est heureux, qu'il a une joie, hein, qu'il est bien dans l'Ayurveda, qu'il a une joie. Hein, je vous ai dit plus d'une fois que yoga et Ayurveda sont deux sciences parallèles, deux philosophies parallèles, ce sont deux sœurs jumelles. Donc, l'équilibre de l'esprit, l'équilibre de l'âme, l'équilibre du corps, tout ça est essentiel dans l'Ayurveda pour avoir la santé. Autrement, on n'est pas dans la santé. Et c'est vrai que il faut pas attendre autour de nous que les gens soient dans cette démarche. L'Ayurveda, vous n'allez pas voir un médecin qui vous donne un médicament dans l'Ayurveda. Ça se passe pas comme ça. Dans l'Ayurveda, vous prenez en charge votre esprit, vous prenez en charge votre corps, vous prenez en charge votre âme. Dans l'Ayurveda, c'est vous le principal responsable de votre santé et de votre esprit, donc, et la santé physique et mentale. Donc, dans l'Ayurveda, on ne va pas se plaindre, dire « Ah, c'est à cause de ci, ah, c'est à cause de ça ». Non, 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 non. En Ayurveda, on est responsable de sa propre santé. Alors, bien sûr, il y a l'hérédité, mais en fonction de l'hérédité, en fonction de votre constitution, important d'être conscient de votre constitution, et en fonction de tout ça, c'est à vous de maintenir l'équilibre, l'équilibre des doshas, l'équilibre des datus, l'équilibre du feu digestif, l'équilibre dans l'élimination des trois malas. Voilà, ça c'est essentiel, et d'avoir cette conscience que c'est pas seulement parce que c'est pas seulement parce que on mange ci ou parce qu'on fait ci. Non, non, c'est beaucoup plus large que ça. C'est dans l'Ayurveda d'ailleurs, il y a des principes de vie. Le matin, quand on se lève, quel est l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on peut faire le matin. Voilà, avoir un bon esprit, faire une prière le matin, un remercier. C'est vrai que nous, les Occidentaux, on critique beaucoup, on est beaucoup dans le rationnel, on se plaint beaucoup, mais on ne sait pas beaucoup remercier. Et c'est vrai que on a quelquefois, on a quand même de la chance par moment. Bien sûr, il y a toujours des soucis dans la vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout le monde, personne n'est préservé. Hein, personne n'est préservé. Et on a toujours l'impression que les autres sont plus heureux que nous. Mais on a tous des soucis et c'est important de, justement de relativiser et de voir comment on peut être heureux malgré tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver l'équilibre, hein. Il y a quelquefois des choses qui peuvent vraiment soucier. Comment on peut faire pour trouver l'équilibre dans tout ça? C'est ça l'Ayurveda. Et l'Ayurveda, c'est l'équilibre du mental aussi, c'est l'équilibre de l'âme. Là, je me répète, l'équilibre du corps, du mental, de l'âme, l'équilibre des cinq sens. Voilà. Alors, ce qui est important, donc, c'est l'aspect curatif dans l'Ayurveda et l'aspect préventif. Et pour avoir l'aspect préventif, je vais rappeler le Panchakarma. Toutes les émissions que je peux faire. Eh bien, le Panchakarma, les cinq actions dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est à la fois la purification justement quand il y a des excès, quand il n'y a pas l'équilibre, on purifie lorsqu'il y a soit des équilibres dans un sens ou dans un autre, pour tous les éléments dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Et puis après, c'est la pacification. Après avoir fait la purification, quelquefois la purification... Ça peut, c'est enlever les toxines, c'est enlever l'excédent, c'est rebooster. Et dans ces actions, il peut y avoir une fragilisation, il peut y avoir des symptômes de la purification. Donc en fait, dans le deuxième temps du Panchakarma, c'est pacification, pour amener l'équilibre justement. L'équilibre. C'est l'équilibre, parce qu'on enlève ce qui est en trop, on remonte ce qui est en négatif, et après, comme on a agi, et quand on agit, obligatoirement, on va bousculer un petit peu, et à ce moment-là, tous les symptômes de ces traitements, ça se fait par beaucoup, beaucoup de traitements, par des jeûnes, quelquefois, par des purgations, et bien, à ce moment-là, eh bien, on pacifie. Et puis après, il y a une dernière étape. Et la dernière étape, c'est on redonne de l'énergie. Ça ne suffit pas d'amener l'équilibre dans le corps. Eh bien, il faut pacifier et redonner de l'énergie. Donc, ce qui est essentiel dans l'Ayurveda, c'est l'équilibre. Hein? L'équilibre à tous les niveaux, l'équilibre au quotidien. Hein? C'est à chaque instant. C'est revoir, prendre un temps de pause et regarder justement quels sont les excès. Hein? Et dans la vie, quelquefois, dans nos vies, on est toujours à courir. Hein? Les Occidentaux, souvent, ils courent. Et c'est important de prendre des moments de pause. Hein, et je suis bien placée pour le dire, parce que c'est vrai que, voilà, depuis que je suis rentrée en France, ça fait presque 3 ans, eh bien, je suis beaucoup sollicitée par le yoga, par l'Ayurveda. Et quelquefois, je suis obligée de prendre des moments de pause, d'arrêt. Hein, je me conserve des journées où je me dis, là, j'arrête, quoi, en fait, hein. Et je crois que c'est tout le monde, hein, c'est important que chacun arrive à par moment s'arrêter, se poser, prendre du recul. Prendre du recul, la méditation c'est quoi? C'est prendre du recul aussi par rapport à ses émotions, par rapport à ses pensées. Voilà, prendre du recul pour amener de l'équilibre. Hein. Si vous êtes toujours dans la course, une course perpétuelle, vous vous fuyez perpétuellement. Et quand on suit, on n'est pas dans l'équilibre. Hein, on est dans les excès, obligatoirement. Quand on est dans les émotions, quand on est dans les peurs, toutes les émotions qui peuvent être la colère, la peur, la jalousie, on est dans les excès. Hein, ramener l'équilibre, même dans les émotions. Alors, ramener l'équilibre, j'ai des amis qui me disent « Ah oui, mais ça va être terne, ça va pas être drôle, c'est les excès qui amènent du piment à la vie. » Non, l'équilibre... L'équilibre fait vraiment du bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... C'est pas ectoplasme, quoi. Il peut y avoir des moments d'enthousiasme. Mais il n'y a pas des moments d'enthousiasme. Et puis après, on descend très bas. Non, il peut y avoir des petits moments d'enthousiasme. C'est une question de dosage. Je crois que cet équilibre est une question de dosage. Et c'est vrai que quelquefois, moi, j'ai rencontré des gens... qui était dans l'Ayurveda, qui était vraiment dans le yoga. Alors déjà, il y avait une grande joie, des gens très positifs, et puis dans l'équilibre, hein, qui n'était pas dans l'excès, qui n'était pas dans le... et qui avait une certaine mesure. Et qui aussi, ce que j'appréciais beaucoup chez ces gens, c'est qu'ils ne réagissaient pas dans la réactivité, quoi. Il prenait le temps avant de réagir. Hein, il arrivait quelque chose, il prenait un temps de recul. Ils retrouvaient leur équilibre. Hein, ils pouvaient être touchés, c'était des humains, comme tout le monde. Ils pouvaient être touchés, mais ils prenaient un temps d'équilibre pour mieux réagir, mais réagir peut-être plus sainement, hein, en voyant l'ensemble. Et quelquefois, je vois les gens qui réagissent très fort, qui ne comprennent pas. Qui ne voit pas l'ensemble de la situation. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris en faisant de la méditation, en étant avec des sages bouddhistes, des sages hindouistes, et bien à prendre du recul et à faire attention à ce qu'on dit et à ne pas réagir tout de suite. Et j'essaye d'amener ça, c'est vrai, au quotidien. Je ne vous dis pas que j'arrive tout le temps. Moi, j'ai un côté vata, c'est enthousiaste. J'ai cet enthousiasme, mais c'est vrai qu'avec l'Ayurveda Yoga, j'ai eu l'impression que mon enthousiasme est peut-être moins fort qu'avant, mais moment, parce que Vata, il y a un moment plus lent, ils sont aussi plus équilibrés. Et je crois que, et ce qui a fait que, il y a un côté, quelquefois on me dit est-ce que ça va? Oui, j'ai l'impression, malgré les événements de la vie, ou grâce aux événements de la vie, eh bien il y a un côté de bonheur plus calme, je dirais, quoi. Hein, de bonheur calme, mais qui est une joie profonde, qui vient de loin, quoi, en fait. Hein, et qui, bien sûr, on peut être affecté par les événements, mais moi j'ai l'impression souvent que ma joie profonde elle est là, quoi, en fait, hein, malgré les événements qui quelquefois peuvent en surface me bousculer, mais de fond je peux retrouver cette joie. Et c'est vrai, en fonction de l'ampleur des événements, eh bien, il me faut un peu plus de temps pour retrouver cet équilibre, mais l'équilibre, je le retrouve. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est l'importance de l'équilibre dans l'Ayurveda et le yoga aussi. Hein. Le yoga, c'est l'union. C'est l'union pour justement trouver cet équilibre dans la posture, le pranayama, par la respiration, trouver, prendre de la distance par rapport aux émotions. C'est très difficile d'agir sur nos émotions. Et nos émotions nous font faire les montagnes russes. On n'est pas du tout dans l'équilibre quand on est dans les émotions. Eh bien, là, la respiration nous permet justement de prendre de la distance et d'arriver à l'équilibre. Donc, que ce soit l'Ayurveda, que ce soit le yoga, l'équilibre est essentiel. L'équilibre, la voie du milieu. Voilà, ne pas être dans les excès. Et l'Ayurveda, quand l'Ayurveda amène, quand on va voir un médecin ayurvédique, eh bien, il va essayer d'équilibrer d'abord votre feu digestif et puis d'équilibrer vos doshas. Hein, d'équilibrer chaque dosha et d'équilibrer l'ensemble. Donc voilà, et je terminerai sur ces termes d'équilibre du particulier et de l'ensemble. Et c'est un peu ça, c'est chaque individu s'équilibre soi-même pour être en harmonie aussi avec l'ensemble. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et puis au plaisir de vous retrouver sur Radio Terra Zen. Au revoir et à bientôt. Thank you.